tout ce que t'as à dire, fais quelque chose.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui est en jeu.
Si c'est notre honneur, vas-y toi te battre.
Bah, au moins, vous êtes direct, vous. Et je vais vous dire une chose, j'aime ça.
Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera ça le temps.
Ouais, c'est drôle.
Si t'es pas content, je me barre. Parce que entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es.
Et bah barre-toi. Parce que toi, rien, c'est la même chose.
Accélère, nom de Dieu! Accélère! Je peux pas, Schumacher!
Salut et bienvenue dans la bande-son. Merci d'avoir choisi l'émission de musique de film La plus grande actrice de cinéma. En direct le lundi à 20h et en replay le mercredi à 10h sur Jet, en FM à Nantes sur 91.2, en RNT, en DAB+, sur Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon. Évidemment en podcast sur toutes les plateformes dédiées et sur le site de la radio jetfm.fr. À l'affiche aujourd'hui, non pas un film, mais un livre, une histoire du cinéma français et un invité, il s'agit de Denis Zorgnotti. Bonsoir Denis. Alors, déjà, si je... Voilà, c'est l'habitude que j'ai perdue de ne pas avoir d'invité. Bonsoir Denis, je recommence.
Voilà, me voilà. Donc je suis l'invité aujourd'hui et merci de me recevoir.
Ça va ?
Très bien, parfaitement.
Eh bien, parfait. Alors, Denis, décidément, c'est l'émotion. Qui es-tu, Denis Zorgnotti ? Journaliste, producteur pour la radio et la télévision, écrivain, critique et musique et cinéma ?
Un peu tout ça, en fait. Hein.
Voilà. Tu tenais aussi un blog sur le site de France Info qui s'appelait La Bande-Son. Ça tombe bien, dis donc, de se retrouver aujourd'hui dans une émission La Bande-Son, l'émission de musique de film. Tu as aussi écrit des textes pour plusieurs chaînes du câble comme TF6, TCM Cinéma, Série Club, Cinéphase, et même rédiger des questions pour des jeux télé comme Pyramide, j'ai lu ça.
Oui, c'est bien moi. Je suis responsable, oui.
Tu as aussi produit un podcast sur le rock indé pour Télérama Radio, auteur occasionnel pour Le Guide du Routard, et tu as aussi écrit pour plusieurs magazines et webzines. Tu es, on le comprend, passionné de cinéma et de musique, et donc j'en viens à ma première question. Comment est né ce projet de série de livres consacrés au cinéma français ? Parce que ce n'est exclusivement que du cinéma français.
Oui, tout à fait. Donc, soyons modestes. Hein. Déjà, le cinéma français est suffisamment conséquent pour s'arrêter dessus et pas aller au-delà. En fait, c'est né étonnamment sur un site, sur un réseau social qui n'est pas Facebook, qui s'appelle Sens Critique.
Ah oui.
Un réseau social plutôt spécialisé justement dans la musique, la littérature et le cinéma. Et là, j'ai rencontré Philippe Palin, avec qui donc j'ai écrit cette histoire du cinéma français. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Lui avait cette idée en germe, hein, et quelqu'un nous a rapprochés. Donc au début, on était même plusieurs à vouloir écrire, à pouvoir écrire. Mais finalement, bon, vu l'étendue du travail, puisque c'est quand même assez conséquent, je l'ai dit, petit à petit, on s'est retrouvés à deux avec l'aide occasionnelle mais efficace de Ulysse Liedo qui collabore à ce tome-ci et au suivant.
Le livre fait 330 pages environ. C'est un très bel objet, un ouvrage de collection. En fait, c'est une série et donc chaque livre va être consacré à une décennie du cinéma français. Le premier s'intéresse aux années 30.
Et c'est exact. Donc là, les années 30 viennent sortir, mais on a déjà pas mal travaillé, beaucoup travaillé même, et on est allé jusqu'aux années 60. Et avec notre éditeur, Leitmotiv, qui est très motivé et très passionné de cinéma, il travaille...
Éditeur spécialisé dans le livre de cinéma.
Voilà, il est basé à côté de Lille, à la Madeleine. Et donc lui est très motivé, et donc les livres sortiront à peu près tous les 6 mois, un nouveau tome. Et là, bon, alors, c'est la minute un peu dure, mais mon co-auteur Philippe Palin est décédé, voilà, donc c'est un peu triste, et ça me fait bizarre d'être là sans lui à défendre le livre, mais voilà, donc je lui rends forcément hommage, d'autant plus qu'il a beaucoup écrit pour ce tome-là, plus que moi, et donc tout ça pour dire que oui, on avait en tout cas écrit la suite, donc je continuerai de mon côté à partir des années 70.
D'accord, et bien on peut lui dédier cette émission.
Tout à fait, même le livre lui est dédié, heureusement.
Oui. Donc Philippe Palin justement parlait dans le livre de l'âge d'or du cinéma français à cette époque, notamment par les multiples chefs-d'œuvre qui sont apparus à partir de 1935.
Oui, on peut dire ça. Les débuts des années 30 sont un peu difficiles. On va en parler avec l'arrivée du parlant où la France n'est pas forcément bien équipée, n'a pas encore totalement absorbé cette nouvelle technologie. Voilà, les cinéastes sont réticents, les ingénieurs du son sont pas bien formés. Donc il y a quelques années un peu difficiles, même s'il y a des grandes œuvres. On en parlera peut-être, comme À nous la liberté, par exemple, en 1931 de René Clair. Et à partir des années 35, oui, on va dire que la vitesse de croisière est trouvée. Les grands cinéastes vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme Marcel Carné, Julien Duvivier, Jean Renoir, pour citer les plus célèbres. Et là, en plus, avec les grands acteurs de l'époque, Jean Gabin, Michel Simon, Louis Jouvet, des grands scénaristes aussi, on en parle dans le livre, Henri Janson.
Oui, ça, c'est à cette époque-là qu'on voit naître justement la carrière de Jean Gabin.
Exactement, voilà, Jean Gabin qui a commencé dès le début des années 30, mais bon, c'est vraiment à partir de films comme Pépé le Moko en 1937, ce genre de film qui devient la vedette qu'on connaît. Et qui vraiment en fait une légende du cinéma, ce dont on parle beaucoup dans le livre. On parle beaucoup de Jean Gabin, évidemment, mais pas que.
Et puis, on a aussi des grands noms à la réalisation, hein, comme Jean Renoir, Duvivier, Marcel Carné, et puis des scénaristes tels que Jacques Prévert.
Jacques Prévert, qui a beaucoup travaillé avec Marcel Carné, qui participe à ce qu'on appelle le réalisme poétique. C'est pas forcément une école, mais en tout cas une esthétique très française. Et Prévert, effectivement, il y a aussi Janson, les dialogues d'Hôtel du Nord, Atmosphère, c'est Henri Janson. On parle aussi de Charles Spack, qui est moins connu, qui est belge d'ailleurs, mais qui a beaucoup travaillé aussi dans le cinéma français, même dans les années 40 et 50. Et qui là travaille avec Jacques Feder, et ensemble ils font des films formidables.
Et puis c'est les années 30, l'apparition du cinéma parlant.
Oui, tout à fait.
Et donc en plus la musique de films avec des artistes comme Maurice Jaubert par exemple, qui a composé des films pour la musique de films du Quai des Brumes ou d'Hôtel du Nord.
Exactement, il y a Maurice Jaubert, il y a d'autres personnes, il y a par exemple d'un coup les noms me viennent plus, mais il y a Cosma, c'est pas Vladimir Cosma, c'est même pas son père d'ailleurs, qui a fait pas mal de musique de films à cette époque-là, y compris avec Marcel Carné. Il y a Vincent Scotto qui est le compositeur un peu attitré de Marcel Pagnol, qui fait beaucoup de films. Après il y a aussi des compositeurs vraiment de musique classique, comme Arthur Honegger, qui faisait partie du groupe des Six avec Francis Poulenc, qui fait beaucoup de musique à l'époque. Jean Vienner aussi. C'est assez riche, et effectivement on en parlait hors antenne, mais les années 30 sont remarquables parce que le cinéma parlant arrive beaucoup avec la chanson. C'est plus du cinéma chantant presque, même si le parlant, il y a les dialogues, mais voilà, c'est une porte d'entrée énorme à l'époque, et presque chaque film contient sa chanson, y compris des chansons restées célèbres. On aura l'occasion peut-être d'en écouter quelques-unes.
Oui, tout à fait. C'était une émission de musique de film, donc on va forcément en passer quelques-unes. Le parlant, cependant, et là on voit ça aujourd'hui de notre œil en 2020, mais nous sommes comme ça, des générations assez férues de nouvelles technologies, et assez gourmands en nouvelles technologies également. Et en fait, à l'époque, c'est très mal vécu, l'arrivée du cinéma parlant, parce qu'en fait, les techniques sont pas prêtes, clairement pas. C'est pas adapté, c'est très cher. Également pour les exploitants de salles de cinéma, parce que ça nécessite quand même des installations spécifiques. Et puis, les réalisateurs eux-mêmes sont assez méfiants par rapport à ça, et en particulier René Clair, parce qu'ils craignent que le parlant va venir dénaturer un petit peu leur art, l'image, la suggestion, les mots. C'est un peu comme si on passait à la couleur, quoi.
Exactement. Après, le passage à la couleur était plus facile, on va dire. Mais effectivement, pour des réalisateurs comme René Clair, mais il y a aussi Abel Gance, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, qui ont fait vraiment le cinéma muet des années 20, qui ont trouvé une esthétique, qui ont travaillé énormément sur le montage, sur le cadrage, avec l'idée de se dire que justement l'image pouvait pallier à l'absence de langage. D'un coup, c'est une remise en question de toute leur esthétique, de toute la grammaire de leur film quelque part. Et donc au début, il y a quelques réticences, mais on peut dire que Chaplin a du mal aussi. Eisenstein, c'est seulement avec Ivan le Terrible qui en 44 qui passe au parlant. Voilà, il y a des Ozu aussi, il y a eu des réticences. Enfin, c'est largement partagé, même si par exemple que des personnes comme Hitchcock tout de suite ont vu la nécessité. Voilà, c'est mais en France, voilà, il y a des réticences, notamment dans René Clair, qui pourtant, Il fait pas exactement le premier film parlé en français. On le dit d'ailleurs, on rend à César le premier film français, c'est André Hugon, enregistré en Angleterre dans les studios d'Elstree pour Les Trois Masques, qui fait donc le premier film parlé en français. Mais le premier grand film parlant, celui qu'a retenu l'histoire du cinéma, c'est un film de René Clair, Sous les toits de Paris. Et voilà, même si René Clair était un peu
n'était pas trop branché par le...
Pas branché par la technique, ouais. Mais bon, après, rapidement, il va s'y faire. Et d'ailleurs, même, il va faire une belle carrière à Hollywood à partir de 1935, il va partir à Hollywood. Donc, il s'est vite mis au pas. Il a vite vu que son art pouvait se coïncider aussi avec le parlant.
Et puis, il y a un des premiers films aussi à être parlant, c'est L'Âge d'or de Louis Buñuel.
Oui, tout à fait.
Donc, en 1930. C'est Louis Buñuel, hein, donc... tout de suite, c'est un film qui est dépeint comme anticlérical, anti-bourgeois,
anti-tout en fait, hein.
Et qui a été alors le premier film par un des premiers films parlants en fait est censuré parce que évidemment pour l'époque c'était absolument inadmissible. Il a été censuré jusqu'en 1981.
Oui, tout à fait.
Et des salles de cinéma à l'époque étaient même saccagées par des groupuscules d'extrême droite, des branches catholiques d'extrême droite qui ne supportaient pas ce film et c'était au-delà de le bannir, il fallait l'interdire.
Les gens étaient assez chauds, hein, on va dire. Mais après, effectivement, la censure, d'ailleurs, je fais un teaser, mais dans le livre années 60 qui sera prévu, pas tout de suite, mais bon, qui est écrit. Donc, bon, il sortira, je pense, d'ici la fin de 2021. Il y a toute une rétrospective, on va dire, de la censure, et on parle effectivement de L'Âge d'or. On parle aussi de zéro de conduite qui a été censuré parce que c'était une incitation, on va dire, à la révolte. Effectivement, c'est des problématiques qui existent déjà à l'époque et qui vont durer plus ou moins jusqu'à l'arrivée de la gauche en 80 au pouvoir, avec différentes étapes.
Alors, le film est assez. Alors, il y a une photo dans le livre sur L'Âge d'or de Louis Buñuel avec la fameuse vache qui est allongée sur le canapé, pour raconter un peu l'histoire du film quand même.
L'histoire du film.
C'est beaucoup dire, mais bon.
Oui, il se passe beaucoup de choses, je sais pas.
C'est un mélange d'anecdotes.
De situations. C'est la suite aussi du. Enfin, c'est pas la suite du Chien andalou, mais en tout cas, ça prolonge l'idée du Chien andalou. Donc, effectivement, il y a des scénettes qui sont souvent irrespectueuses, qui se moquent de la religion, des institutions, de l'armée. Après, c'est une expérience. Le film, et vraiment, je conseille à tout le monde de le voir.
Combien as-tu vu de films pour réaliser ce livre, ce premier tome?
Alors, on était deux, donc on s'est répartis les rôles quand même. Il y a des films qu'on a vus tous les deux, évidemment, les chefs-d'œuvre. Après, c'est difficile à dire, mais bon, à peu près peut-être 150 films, quelque chose comme ça. Et encore les années 30, d'ailleurs, on n'a pas commencé avant. Car avant les années 30, les années 20, il y a des choses très très bien, et même avant, mais les films sont durs à voir. Donc là, on a parti du principe que tous les films dont on allait parler, on allait les voir. Donc ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'heures de visionnage. Effectivement, donc rapidement, ça monte. Après, il y a, contrairement aux années plus récentes, il y a plein de films qui sont quand même encore aujourd'hui difficiles à voir, qui sont oubliés, qui sont perdus. Mais effectivement, ça fait des centaines et des centaines de films pour moi, et autant, voire plus pour Philippe. Donc ça a été beaucoup, beaucoup d'heures de visionnage. Et voilà. Mais on s'est tenu à cette idée de se dire qu'on partait des films. Encore plus que, bon, après on a lu aussi les différentes histoires qui sont parues avant nous, mais qu'on voulait avoir un regard assez neuf. Et partir vraiment de la source filmique plus que du livre qui allait commenter le film. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui a été passionnant par ailleurs.
Le livre l'est en tout cas. Enfin, moi je l'ai dévoré. Le livre en fait est un peu, on en parlait en antenne, comme une sorte de magazine ou d'encyclopédie. Chaque année il y a un rappel historique. Qui replace aussi le contexte de l'année en question par rapport à ce qui se passe dans le monde et en Europe. Je rappelle qu'on est quand même à la sortie de la crise de 1929 aux États-Unis et juste avant la guerre de 1939
et ça, l'arrivée
d'Hitler,
oui.
l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 en Allemagne, qui influence beaucoup le cinéma. Et puis, il y a beaucoup de portraits d'acteurs, de réalisateurs, beaucoup d'anecdotes, des passages comme Arrêt sur image qu'on retrouve à chaque année. Et puis, des coups de cœur aussi que vous avez exprimés dedans.
Oui, on essayait en fait de... Bon, évidemment, il y a des chefs-d'œuvre, même si les gens ne les ont pas vus, ils les connaissent, là, La Grande Illusion, La Règle du Jeu, Pépé le Moko, voilà, j'en parlais. Après, il y a des films qui sont moins connus, donc on a essayé aussi, pour certains, de les mettre en coup de cœur, de les mettre en avant. Par exemple, Le cœur des lilas d'Anatole Litvak, qui est un des premiers films de Jean Gabin. Mmh. Il y a Fréhel dedans, d'ailleurs, deux chantent ensemble, enfin, dans le film. Ici aussi, essayer aussi d'être exhaustif et de donner envie et d'éclairer des choses plus originales. Y compris dans nos choix d'acteurs et d'actrices, puisque pour chaque année, il y a un acteur, une actrice qui est mis en avant. Et donc, il y a évidemment Jean Gabin, Michel Simon, il y a Arletty, il y a Michel Morgan. Mm-hmm. Mais il y a des comédiens un peu moins connus, comme Harry Bore, qui était, par exemple, un peu le Rému du Nord, et qui a eu d'ailleurs une fin douloureuse. Il est mort sous l'occupation, dans les geôles nazis. Enfin, il est mort juste après. Mmh. Et vous parlez de Mireille Balin aussi, qui était une des premières vampes, on va dire, du cinéma français. Ouais. Mmh. Et qui a eu une triste fin, elle aussi, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un officiellement. Elle a payé durement et chèrement. J'en parle dans le livre. Mais voilà, à l'époque, c'était une star dans les années 37-38. Un sex-symbole français. Et voilà, on essaye aussi de reparler de ces comédiens, comédiennes un peu moins connus, un peu oubliés.
Un peu oubliés, oui, par rapport aux stars, en fait, qui rebondissent surtout dans l'après-guerre.
Après. Dans l'après-guerre, ou qui sont Fernandel, évidemment, Jean Gabin, ces gens-là ont perduré au-delà des années 30 et ont... Gabin est mort en 76, Fernandel est mort en 70, enfin, ils ont eu le temps de faire vraiment une carrière, d'autres ont moins eu cette chance. Voilà, Harry Bore, j'en parlais, bon, après, voilà, il y en a d'autres, il y a Jules Berry, qui est bon, très grand acteur, mais qui est mort en 51, donc voilà, ça fait déjà... presque 70 ans, donc le grand public a eu le temps de l'oublier et de ne pas se rappeler de sa prestation dans Les Visiteurs du Soir en Diable, où il est formidable, hein, voilà. On essaie de rendre hommage et de donner une vision, après ça s'appelle une histoire, c'est pas non plus une encyclopédie, voilà. C'est pas l'histoire aussi, car il y a une subjectivité et on pouvait pas traiter de tout, mais en tout cas d'essayer d'être suffisamment exhaustif et suffisamment équilibré pour pouvoir parler un peu des différentes tendances.
Mais qui est très intéressante, hein, parce que pour... moi, je ne connais pas tous les films des années 30, et même pour un auditeur qui nous écouterait et qui ne connaîtrait pas, qui serait pas particulièrement passionné que ça, plus que ça par le cinéma, mais qui aime ça, malgré tout, eh bien, il peut apprendre des tas de choses à l'intérieur. Ce n'est pas du tout un discours universitaire ou élitiste, c'est totalement abordable, et ça fourmille d'anecdotes, de portraits, de petits passages. On picore en plus un petit peu hein, ce qu'on veut y trouver. On peut feuilleter, s'arrêter, tiens, sur un portrait, sur un petit résumé de film. C'est un peu à la carte, en fait, ce livre.
C'est ce qu'on avait voulu avec Philippe. Dès le début, on a pris du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, à comment on allait structurer le livre. Donc là, c'est cette idée par année, avec des films, effectivement, le film de l'année, des films mis en gros plan, des coups de cœur, des films traités plus rapidement, un comédien, une comédienne, un réalisateur chaque année, un dossier thématique. Ouais. Hein. Mmh. Et aussi de se dire que voilà, le cinéphile un peu pointu pouvait trouver son compte aussi, parce qu'on essaye, on parle beaucoup de forme aussi, voilà, il y a un discours technique derrière. Mais qu'en même temps, la personne qui aimait le cinéma pouvait s'y retrouver comme tu as dit, par les anecdotes, par les histoires,
les portraits.
Les portraits, et essayer de remettre aussi dans le contexte historique. Voilà, comme tu as très bien dit, je souscris tout à fait. C'est ce qu'on a voulu, que ce soit pas exclusif et que ce soit pas, qu'on mette pas forcément le grand public, entre guillemets, à la porte d'un ouvrage qui serait trop pointu, trop, voilà, pas universitaire non plus, voilà, mais tout en étant sérieux notre démarche.
Et ben... c'est totalement réussi. Eh bien, Denis, je te propose une première respiration musicale, comme on dit dans les grandes radios. On parlait de Jean Gabin. Alors, j'ai parmi le choix que tu m'as proposé de différents titres musicaux de l'époque, eh bien, j'ai choisi Jean Gabin et puis La Môme Caoutchouc.
Voilà, allons-y.
J'ai ce spectre.
Bon, ça va, si je suis pas trop, je bafouille pas trop.
Élastique, vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en vrille, à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou. Elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. L'amour.
Tu veux en mettre un deuxième à la suite hein? Tu veux en mettre un deuxième à la suite hein? Ouais, non mais c'est bien, je trouve.
Hein. Bah,
je sais pas, avoir un bon copain, par exemple.
Elle vous dit que l'amour, caoutchouc, c'est un lot, c'est un drôle de petit bout. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. Dans tous les encombrements, elle se glisse légèrement, elle faufile, elle me sert de faufile. Par contre, dans le métro, elle se gonfle les pectoraux. Je suis toujours certain de trouver un strapontin. Quand sa peau, j'ai marre, j'y dis, faut que tu te barres, pas moyen. Toujours elle revient, elle s'allonge, se prolonge, c'est un ressort à boudin. L'amour, caoutchouc, pour l'avoir, c'est pas comme du tout. Et le second, elle se détraque, quel drôle de micmac, moi elle me fout le trac. Elle m'estomaque, l'amour, caoutchouc, je voudrais bien pouvoir en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche, elle est debout. L'amour, caoutchouc.
C'est impossible de me rappeler de Joseph, parce que Joseph.
C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et l'homme torvattent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien notre ami, aussi chantons, sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Au revoir, un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une lime dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins, quand on possède un bon copain. Les doux aveux des amoureux, avouons-le maintenant, ces vieux jeux, sexe charmant, des longs serments, ne sont que des boniments. Point des baisers pour se briser, sur une route il suffit de baser. Le grand amour, ça dure un jour, l'amitié dure toujours. Au revoir, un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Tu dis, main dans la main, ah, chaque seconde, on rit de ses chagrins, quand on possède un bon copain. De ses chagrins, quand on possède un bon copain.
La bande son.
Alors, avoir un bon copain par Henri Garat. Donc ça, on peut retrouver ce titre dans Les Chemins du Paradis. Et sorti en 1931. Et puis Jean Gabin, c'était La Môme Caoutchouc qu'on peut retrouver dans Cœur des Lilas. 1932.
Voilà, dans le cœur des... Là, c'est la version Jean Gabin, c'est pas la version dans le film. Celle-ci est contemporaine, mais dans le film, voilà, il commence à chanter dans un café. Il joue le rôle d'un truand. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de truands dans les années 30. Et après, c'est Fréhel qui reprend la chanson à sa suite. Voilà, c'était un peu plus long, puis la copie était moins bonne. Et un petit truc sur Les Chemins du Paradis, c'est un film de Willem Till et de Max de Vaucorbeil. Et c'est une période, en fait, le début du parlant qui est assez, comme on l'a dit, techniquement, ça marche pas. Les Allemands sont en avance sur nous. Ils ont des ingé-sons, ils ont des studios équipés. Et c'est le début des coproductions. Avant, ça ne se faisait pas. Là, à partir des années 30, à cause de ces problèmes de son, les coproductions arrivent. Et donc, il y a des coproductions, notamment franco-allemandes. Et on fait des films en version multilingue. À savoir que c'est les mêmes décors, c'est la même histoire, c'est les ingé-sons. Enfin, voilà, tous les mêmes techniciens. Voilà, c'est le mot. Mais on change d'acteurs. Donc, on met des acteurs allemands. Et après, les acteurs allemands partent. On met des acteurs français. Et donc voilà, ça c'est le et donc ça favorise aussi des films de comédie musicale. Donc Les Chemins de l'Espérance, c'est une comédie musicale avec une l'histoire, c'est vraiment très simple. C'est trois copains qui partent en voiture et qui s'arrêtent à un moment dans une station-service et finalement ils vont vivre là dans cette station-service avec une jeune femme qui est Liliane Harvey qui parle par chance à la fois allemand et français parfaitement, et elle fera les même anglais d'ailleurs, elle fera tout le temps elle bougera pas, elle sera tout le temps là. Donc voilà, c'est une petite comédie musicale un peu esprit de loin quand même, mais Fred Astaire et Ginger Rogers, voilà, c'est la même période.
Vous êtes toujours au cœur de la bande son sur Jet en FM à Nantes sur 91.2 et notre invité c'est Denis Zorniati à propos du livre Une histoire du cinéma français de 1930 à 1939. Est-ce que sur toute cette sélection, tu as un ou plusieurs, j'imagine, films fétiches des années 30?
Oui, bien sûr, évidemment. Moi, il y en a beaucoup qui me plaisent. Moi, c'est vraiment un sujet que j'étudie depuis très longtemps. J'avais même étudié ça à la fac avec Jean Gilly, qui est un des spécialistes français. Là, sortant un peu des classiques Renoir et du Vivier ou Carnet, moi, il y a peut-être deux films vraiment qui me vont droit au cœur. Il y a Le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, moi qui est un film que j'aime énormément. Ouais. Donc après, il faut aimer Guitry qui est très brillant, qui est en même temps parfois insupportable. Mais ce film-là, en fait, l'argument est amusant. C'est l'histoire d'un enfant qui triche et qui est puni par sa famille, enfant. Et donc, il est privé du repas. Et lors du repas, en fait, c'est un repas de champignons. Et toute la famille en mange et tout le monde meurt, sauf lui. Et donc lui, à partir de là, il se dit que finalement c'est tricher, c'est peut-être positif. Et il va passer toute sa vie à tricher, et il va gagner beaucoup d'argent. Et même à la fin, en étant devenant honnête, il va tout perdre. Et le film est amusant parce que Guitry, c'est une possibilité par rapport au son proposé par le cinéaste dans ce film-là, c'est qu'il fait toutes les voix en fait. Il raconte l'histoire en voix off. Et quasiment, il fait toutes les voix de tout le monde, en fait. Il raconte lui-même, et quand on voit quelqu'un bouger les lèvres, en fait, c'est Guitry qui reprend le texte. Donc, c'est assez plaisant la narration est originale. Et le film, impertinent. Donc, ça, c'est un film vraiment que je conseille. Et sinon, si j'avais un deuxième coup de cœur un peu plus original, c'est La Kermesse héroïque de Jacques Feder avec Françoise Rosé, qui était sa femme, qui est traitée dans le livre, une comédienne qui avait beaucoup de tempérament. Et c'est un film, moi, que je trouve délicieux. Qui se passe au XVIIe siècle dans les Flandres avec les Espagnols qui sont l'envahisseur et qui menacent d'arriver dans une petite ville des Flandres et tout le monde a peur qu'ils détruisent tout, qu'ils saccagent tout. Et tous les hommes en fait ont peur et partent ou se cachent. Et c'est les femmes qui vont prendre le problème à bras le corps et qui vont se dire on va nous avec nos arguments on va faire en sorte de sauver la ville. Donc elles vont les faire boire, elles vont donner un peu de leur personne et donner un peu de leur corps, on va dire, mais elles vont réussir à sauver la ville comme ça. Et le film est d'un humour absolument formidable, et visuellement c'est un film qui est très beau parce qu'il rend hommage à tous les maîtres flamands Franz Hals, par exemple. Enfin, il y a vraiment des vues des Flandres extrêmement picturales. Oui. Donc, il y a à la fois le... C'est drôle, moi je trouve que ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale tellement c'est divertissant.
Le cinéma devrait être remboursé par la sécu.
Carrément, mais certains films plus que d'autres. Et celui-là l'est assurément. Et en même temps, visuellement, il y a vraiment... c'est un petit bijou de décor, de lumière. C'est donc un film que je conseille et qui est plus original quelque part que La Grande Illusion ou Pépé le Moko. Voilà,
oui, et puis...
ou Quai des Brumes.
Moins connu, donc voilà.
Moins connu, exactement.
Ça mérite d'aller... La curiosité mérite de les
voilà,
regarder.
Bah, après c'est deux titres comme ça. Les Croix de Bois, par exemple, sur la guerre de 14, est un film vraiment saisissant, tourné avec, d'ailleurs à l'époque, avec les anciens poilus qui quelque part, jouent leur propre rôle d'une certaine manière. Et ça devait être, je pense, intense pour eux. Et le film est extrêmement fort, avec un très beau travail sur le son aussi. Il y a aussi À nous la liberté, j'en ai parlé, de René Clair, qui est le film qui a en partie inspiré Les temps modernes de Charlie Chaplin, un film sur le travail, qui est extrêmement finalement politique dans montrer le côté aliénant du travail à la chaîne à l'époque, assez poétique aussi puisque finalement les deux protagonistes qui au début s'évadent d'une prison et tombent dans l'usine, vont faire le choix de vivre en extérieur, sans rien, mais en profitant de la nature. Mmh. Voilà, un peu la vision romantique du clochard à l'époque aussi, avec Boudu sauvé des eaux. Voilà, et ce film entretient cette espèce d'imaginaire. Mais en tout cas, voilà, c'est des films vraiment, visuellement, politiquement aussi très intéressants.
Mmh. Alors, il y a aussi un long passage dans le livre sur Marcel Pagnol, qui, lui, venait du théâtre et qui, en fait, voulait, en voyant le cinéma parlant arriver, que les gens du théâtre, en fait, mettent la main sur le cinéma, parce qu'ils disent, le parlant, c'est nous, quoi, en gros.
Oui, c'est... Alors, il y a du pour et du contre dans cette histoire-là, parce qu'effectivement, d'ailleurs, même on peut le voir, on a passé Jean Gabin, Henri Gara, beaucoup de comédiens, de comédiennes viennent du musical et du théâtre. Et donc, effectivement, avec des René Clair, j'en ai parlé aussi, Marcel Lherbie, Abel Gance, qui était un peu frileux au début, beaucoup de gens de théâtre se sont dit, quelle opportunité formidable. Et ils sont arrivés, ils ont fait... la Pagnol, notamment la trilogie Marius, Fanny, César dans l'ordre, voilà. Seulement le dernier d'ailleurs est réalisé par Pagnol, mais eux ils ont vu une opportunité énorme et ils ont, comme tu as dit, voilà, pas voulu mettre la main mise, mais en tout cas bon, ils se sont dit quelle opportunité. Ils ont quand même participé aussi à démocratiser l'emploi du son au cinéma, donc on peut aussi, on leur doit beaucoup, même si quelque part pendant plusieurs décennies, le jeu des acteurs s'en est aussi parfois ressenti, avec un jeu assez théâtral justement, avec des gens qui venaient du théâtre et du musical, je l'ai dit, et donc ça a quand même joué plus en France d'ailleurs que par exemple aux États-Unis où le jeu des acteurs rapidement a été moins théâtral, moins ampoulé d'une certaine manière. Voilà. Après il y a des exceptions, Charles Vanel par exemple dans Les Croix de Bois, et c'est un acteur extrêmement sobre par rapport à d'autres comédiens. Bon, après voilà, quand les comédiens s'appellent Louis Jouvet quand même, ça vaut la peine aussi. Ou Rému, voilà, c'est le talent fait qu'on passe totalement au-dessus et il transcende les films.
Devenu mythique.
Exactement.
On a un peu, en fait, finalement, René Clair, qui était quand même assez sceptique, qui n'était pas à l'aise avec le parlant. Et puis, au contraire, Pagnol, qui, lui, a voulu magnifier les dialogues dans ses films.
Carrément, oui. D'ailleurs, c'est amusant de voir aussi la durée des films. Les Pagnols sont très, très longs, souvent, qu'effectivement, c'est des adaptations de ses pièces. Alors, ça passe bien parce qu'il y a le pittoresque méridional, mais un film comme Marius ou Fanny, ça dure plus de deux heures et quart.
Mais il y a Les Misérables, qui dure...
Oui, c'est en deux époques. Hein. Ouais. Oui. Ça, c'est Raymond Bernard. C'est la première version des Misérables avant celle de Gabin des années 50. Et il y a une version aussi Robert Hossein de 82 avec Lynn Ventura.
Avec Renaud et...
Oui, ça, c'est un très, très bon film. Ouais. Raymond Bernard, qui a fait aussi Les Croix de Bois. Mm-hmm. Ça, c'est notamment... c'est un des réalisateurs qui, tout de suite, utilise, je trouve, l'arrivée du parlant avec intelligence. Il y a Jean Grémillon, j'en parle aussi, qui, rapidement aussi... dans un film très peu connu qui s'appelle La Petite Lise, qui était un insuccès total à l'époque, a été remonté, martyrisé ce film à dommage. Ouais. Lui, rapidement, dès 1930 aussi, il trouve des idées, un intérêt pour le parlant, pour synthétiser des choses. Enfin, j'en parle dans... Voilà, juste un bruit hors champ peut explique qu'un coffre-fort vient de s'ouvrir. Mmh. Voilà, pas la peine de...
Pas la peine de le montrer, quoi.
Voilà, pas la peine. D'un coup, ça peut apporter et resserrer le récit à l'essentiel.
Ouais. Et alors, bon, on le disait tout à l'heure, il y a ce livre et aussi croustillant d'anecdotes. Enfin, pour les gens gourmands comme moi, c'est un vrai bonheur. On apprend par exemple que, bon, si on ne savait pas que Jean Giono et Marcel Pagnol ont beaucoup collaboré ensemble jusqu'à se fâcher,
oui, mais tout
très,
à fait.
Très dur. Giono, en fait, reprochait les adaptations du Spoons et de La femme du boulanger à Pagnol.
Oui, exactement. Bah après, voilà, ils avaient des visions différentes. C'est marrant parce que Jean Giono, finalement, a... Bon, après, Jean Giono, c'est quelqu'un d'assez aigri, on va dire. Hein, mais ouais. Après, il s'est lui-même intéressé au cinéma. Ouais. Il a réalisé un seul film qui s'appelle Crésus avec Fernandel. Mmh. Il a repris Fernandel. Mmh. On est dans le sud. Le film, d'ailleurs, évoque un peu Regain. C'est un village désolé. Et voilà, lui-même, en tout cas, après, a touché au cinéma. Je crois qu'il avait lui-même des idées très précises de ce qu'il voulait faire. Et à un moment, avec Pagnol, il y a eu un peu une brouille vers la fin des années 30. Mmh. Ouais, tout à fait.
Et puis, il y a le dernier film de Pagnol, La fille du puisatier, qui sera censuré par les Allemands quand ils occuperont la France.
Alors, La fille du puisatier, c'est un film extrêmement... Donc, c'est un film... Donc, c'est 1940, et c'est un film qui se tourne en... avant la drôle de guerre, pendant la drôle de guerre, et qui se termine au moment de l'armistice. Donc c'est un film qui a été à des moments censuré. Alors ça a été censuré par les autorités de Vichy, qui ont rajouté un monologue. Mm-hmm. Finalement, à la libération, ce monologue a été enlevé et on en a rajouté un autre. C'est un film qui a évolué au gré de l'histoire. Et lui-même a été fait à des moments vraiment extrêmement de changement, on va dire, la drôle de guerre, voilà, l'armistice. Et donc il y a différentes étapes dans La fille du puisatier. Ça témoigne vraiment de cette période un peu contrastée, tourmentée, et des aléas de la guerre, ouais, tout à fait.
Et bon, comme je le disais tout à l'heure, le livre relate chaque année les faits historiques, pas seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, pour montrer à quel point ça a une influence sur le cinéma français et pas que. Et on voit, plus les années avancent, c'est... un peu on connaît la fin de l'histoire, hein, parce qu'on sait qu'on va arriver en 1939 à la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France, mais malgré tout, voilà, chaque année il y a, alors en 33, donc l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et il y a par exemple, est raconté sur Daniel Darieux, elle va se retrouver en résidence surveillée, parce que en gros elle refuse de jouer pour la Continental, qui est la société de production allemande, créée par Goebbels quand même.
Oui.
Et ensuite, quand elle va refaire du cinéma après-guerre, elle va avoir des rôles comme ça, qu'on dirait aujourd'hui féministes, c'est-à-dire de femmes assez engagées, à une époque où elles n'avaient toujours pas le droit de vote.
Oui, le droit de vote, c'est 45, hein, parce que je crois que le Sénat ne fonctionnait pas à ce moment-là, sinon ça aurait eu plus de mal. Hein. Après, c'est pour revenir, on va sur les années 40, mais bon, on en parle dans Daniel Darieux, ce portrait-là, effectivement, la Continental créée par Goebbels, mais heureusement, il y avait celui qui l'a dirigé, c'est Alfred Greven, qui était un Allemand francophile. Il a préservé le cinéma, donc il y a beaucoup de chefs-d'œuvre sous l'occupation, notamment Les Visiteurs du Soir, Le Corbeau, effectivement, Darieux, elle s'est engagée d'une certaine manière, en tout cas, voilà, il y a d'autres comédiens, comédiennes qui ont été beaucoup plus ambiguës, on va dire.
Moins regardantes.
Voilà, Fernandel, par exemple.
Ah oui, alors là, Fernandel, je le garder pour tout à l'heure, mais il y a un portrait qui est que moi j'ai adoré de Fernandel, parce que je trouve que ça remet quand même ce personnage, je trouve, un peu à sa juste valeur, qu'on a parfois eu tendance à oublier, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu une vache sacrée en France, Fernandel, et il est ultra populaire, et il avait quand même ce qui est très bien décrit dans le livre, un égo hors norme.
Ah, ça, c'est sûr.
Il a fini sa vie dans un appartement avec du marbre du sol au plafond. Et en fait, il ne jouait que des rôles assez faciles, en fait. Hein. C'était tout à sa gloire. Et donc, il ne fallait pas de réalisateur un peu trop connu, parce qu'il fallait que ce soit lui, quand même, qui soit écrit en très gros sur l'affiche. Et puis lui, bah, il va pas rechigner à jouer avec la Continentale, quoi.
Oui. Après la Continentale, voilà, comme je l'ai dit, il faut être mesuré.
Son film Simplet, cela dit, est quand même un peu.
Oui, Simplet, c'est un des trois films vraiment à la fin de la guerre qui a vraiment eu des problèmes.
Pétainiste et antisémite.
Bah, antisémite, oui, on peut l'imaginer. Le film, en fait, c'est la rivalité entre deux rivalités. C'est que depuis des siècles entre deux villages, donc c'est une fable. Hein. Sauf qu'effectivement dans le film, il est dit que celui qui a causé la discorde entre eux, c'est donc un quelqu'un il y a très longtemps. Enfin, il y a une statue dans un des deux villages. On précise que voilà, il a le nez crochu. Enfin voilà, c'est un peu celui qui.
C'est la caricature.
Et après, on peut totalement voir le film comme voilà les deux villages, c'est la France et l'Allemagne, et c'est. Peut-être le juif qui, en tout cas, a semé la discorde. Et maintenant, c'est Simplet, donc le personnage joué par Fernandel, qui est un simple d'esprit, mais extrêmement bon, comme les simples d'esprit, d'une certaine manière, qui va réconcilier tout le monde. Après, c'est rigolo parce que Fernandel, là, j'en ai pas parlé dans le portrait, ça sera de plus tard dans les années 50, mais c'est rigolo parce que dans La Vache, il tourne dans La Vache et le Prisonnier, en 59. Et La Vache et le Prisonnier, c'est un film qui finalement redonne une image positive des Allemands. C'est le moment où De Gaulle et Adenauer se rapprochent et veulent montrer. Il y a des amitiés franco-allemandes. Les étudiants allemands viennent en France, etc., etc. Et le film participe à réconcilier la France et l'Allemagne. Après, c'est rigolo de se dire qu'en 59, il le fait pour deux démocraties et à l'époque, il le fait pour pas des démocraties.
Non.
Voilà. Mais après, voilà, après Fernandel, c'était une énorme vedette. C'est une des grandes vedettes des années 30 et au-delà. Après, voilà, moi, mon texte est un peu sévère. C'est pour la peine, c'est moi qui l'écris.
J'ai trouvé juste parce que j'ai toujours connu un peu ça de Fernandel, en fait. Et c'est un personnage. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu de Fernandel, mais pendant longtemps, je trouve que ça a quand même été. Il y avait comme ça, comme je disais tout à l'heure, une aura un peu ultra populaire et un peu une vache sacrée qu'on On va pas, c'est une icône quoi.
C'est Bourvil, Bourvil. Donc là, il arrive plus tard, Bourvil. Il arrive à la fin des années 40-50, mais Bourvil qui était toute sa vie, il a voulu imiter Fernandel. Il a commencé sur scène en jouant Fernandel et ils se sont retrouvés tous les deux dans La Cuisine au beurre en 63 de Gilles Grangier à tourner. Et là, ça a été terrible hein, parce qu'effectivement, Fernandel faisait en sorte de bousiller les prises où Bourvil était en avant, exprès pour qu'il n'y ait que lui qui soit présent. Voilà. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de formidable, humainement. Voilà. Après, je ne veux pas trop tirer sur l'ambulance. Voilà, il a aussi joué dans Regain, dans Le Spoon, il est formidable, on en parle. Dans Regain ou Daïs, il a des rôles plus dramatiques et il montre un potentiel plus grand. Oui. Après, c'est vrai que je trouve qu'il a un peu joué sur la facilité, là où, par exemple, Bourvil a pu tourner chez Melville, chez Mocky.
Mocky, il est excellent.
Voilà, il a pris des risques là où Fernandel, lui-même l'a dit. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Il a fait L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara en 52 et il n'a pas aimé le résultat. Il trouvait le film anticlérical et de lui-même, il a dit bon, voilà, maintenant, on ne m'y reprendra plus à essayer de faire un film d'auteur. Je veux faire des films plus faciles, plus grand public. Voilà. Même s'il a pris, j'en parle aussi de. Avec Henri Verneuil, Le Fruit défendu, c'est une adaptation de Simenon où il joue le rôle d'un mec pas sympathique. C'est un peu un film noir et là, bon, ça vaut la peine de le voir, par exemple.
Et puis alors, il y a l'immense Michel Simon, hein, qui est un petit peu, qui est clairement décrit comme le comédien de la décennie. Alors, il y a plein d'anecdotes, mais hilarantes sur Michel Simon, qui était un personnage absolument truculent. Quand on lui demandait ce qu'il pensait de Louis Jouvet, il disait c'était la reine des salopes.
Oui, c'était pas l'entente. Mais je crois que c'était pas l'entente avec beaucoup de personnes.
Non. Et Rému, il disait un con sans relâche. Par contre, Michel Simon, c'est le type quand même qui portait l'étoile jaune face aux Allemands.
Oui, oui, la provoque, oui, tout à fait.
Et qui avait une collection mais inimaginable d'accessoires de pornographie, qui avait une guenon comme animal de compagnie, hein, Zaza.
Zaza.
Et qui un jour, sur un film de Mocky, a voulu qu'on lui apporte une prostituée pour pouvoir continuer de tourner le film.
Oui, en fait, bon, ce qui est, j'ai lu récemment, ça date de la semaine dernière, la biographie de Paulette Dubost, qui d'ailleurs est en couverture de notre livre pour une photo de la règle du jeu, et elle disait que même avant, c'était déjà le cas. Dans le cas de Mocky, c'était son dernier film, c'était en 75, L'Ibis Rouge, il avait 80 ans.
Ouais.
Et vraiment, c'est Mocky qui racontait ça, qui faisait des caprices en disant « je continue pas tant que j'aurais pas eu une petite gâterie ». Et vite, les assistants allaient chercher une prostituée rue Saint-Denis, puisqu'il tournait pas très loin. Mmh. Voilà. Mais c'était ça. Il était né avec le cinéma, Michel Simon, il est né en 1895, donc peut-être qu'il avait quelques prérogatives, quelques privilèges nés de cette... De ce 1895.
Et puis il y a Jean Renoir aussi, le réalisateur de la décennie, quant à lui, avec notamment des films comme La Chienne, Boudu sauvé des eaux, Le crime de Monsieur Lange, ou La grande illusion, La bête humaine.
Oui, oui, il y a beaucoup de films. Oui, oui, Renoir apparaît beaucoup, même on a fait. En fait, même un dossier, on va dire la réception critique de l'époque. Mmh. Renoir, qui avait commencé avec Le Muet, lui aussi.
Ouais.
Il a pu faire pas mal de films, notamment une adaptation de Nana.
Mmh.
Et rapidement, il n'a pas fait que des bons films au début des années 30. On Purge bébé, c'est une adaptation de Fedot, si je ne m'abuse. C'est pas un grand film. Mmh. Mais rapidement, La Chienne, ça participe justement parmi les premiers films parlants qui utilisent au mieux le son. Rapidement, ça va devenir quand même un des réalisateurs majeurs, avec Tony notamment aussi, qui est un peu un des ancêtres du néo-réalisme. C'est un des cinéastes majeurs de la décennie. Et après, il va partir aux États-Unis, il va revenir après la guerre dans les années 50. Il va faire encore quelques grands films comme French Cancan.
Oui.
Mais bon, la période, quand même, l'âge d'or, c'est quand même ces années 30 de Renoir pour lui. Hein.
Très bien. Eh bien, écoute, Denis, je te propose une petite pause musicale avant de terminer cette émission, parce que...
On parle,
mais le temps avance également. Et on parlait justement des Misérables, et ça me fait plaisir de passer ce titre des Misérables. La musique d'Arthur Honegger, le film est signé Raymond Bernard, sorti en 1934.
Ça fait un petit truc, c'est pas long ça. Oui, je voulais passer un peu de la musique classique, mais en fait, il n'y avait pas que des chansons en fait. Arthur Honegger, il y avait aussi. Moi j'aime bien aussi l'autre. Après, c'est le groupe des Six, moi j'adore. L'autre, c'est Georges Auric. C'est le groupe des Six, Georges Auric en fait partie aussi. Et après, on en passe un autre, tu veux? Ouais, comme de bien entendu, peut-être.
La bande son.
Voilà la musique donc d'Arthur Honegger sur Les Misérables. Il y a aussi sur cette époque, sur cette période, qui est quand même pas la plus heureuse, il faut bien le dire, beaucoup de films très, très satiriques comme Ces Messieurs de la Santé de Pierre Colombier, qui est une comédie satirique qui brocarde les banquiers véreux. On est en pleine en plus affaire Stavinsky. C'était un escroc qui a été retrouvé mort dans des circonstances un peu étranges. Après une fraude bancaire. Et en plus, bon, on a appris qu'il connaissait quand même pas mal de beau monde, du beau linge, surtout parmi les politiques. C'est assez étonnant, je trouve.
Oui, parce que après, c'est un cinéma populaire qui, justement, aussi brocarde les puissants. L'affaire Stavinsky, oui, c'est un énorme scandale qui a même mis à mal la République. Après, 6 février 34, c'est, ça naît presque de Stavinsky aussi. Donc, il y a cette espèce de côté satirique avec, là, pour la peine, aussi un Rému qui est magistral. Rému qui fait beaucoup de rôles à l'époque où il n'y a pas que César ou la femme du boulanger, où il joue les rôles de personnes qui sont bonhommes, sympathiques, mais qui derrière cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il a fait aussi cet étrange Monsieur Victor de Jean Grémillon aussi, où il est un tueur, enfin voilà. Mais oui, c'est complètement satirique, c'est complètement irrévérencieux comme film. Et Pierre Colombier, qui n'est pas forcément un grand cinéaste, là, ouais, donne le meilleur de lui-même aussi. C'est assez truculent comme film. C'est des films qu'on peut voir avec plaisir encore aujourd'hui, oui. Tout à fait.
Et puis, bon, alors, il y a tout un tas de portraits hein, de ces immenses acteurs, ces immenses figures totalement mythiques de l'époque. Arletty, notamment. L'une des actrices les plus importantes de cette décennie qui commence vraiment à crever l'écran à partir de 1935, on va dire.
Oui, avec peut-être Pension Mimosa, où en fait elle...
Elle a fait beaucoup de second rôle.
Carrément, oui. Mais après, c'est vrai que c'est un peu comme... Enfin, ça n'a... Dans un genre assez différent, mais c'est un peu comme Louis de Funès aussi, qui a fait énormément de second rôle, avant finalement de se dire, mais ce mec-là, on le voit 5 minutes, il est génial. Hein. Et elle, c'était un peu le cas, et dans Pension Mimosa, par exemple, elle a juste 2-3 scènes, et elle prend la place de tout le monde. Et ça sera un peu le cas de tous ses rôles, d'ailleurs, parce que dans Hôtel du Nord, par exemple, avec Louis Jouvet, donc grand film de Marcel Carnet sur des dialogues de Janson, elle fait partie de tous les habitants de l'hôtel. C'est pas elle forcément le personnage principal. C'est plutôt c'est dans le film, c'est plutôt Annabella avec Jean-Pierre Aumont, et ouais, elle crève l'écran avec son atmosphère. Et ça sera un peu le cas de beaucoup de rôles. Le jour se lève aussi, où d'ailleurs il y a un plan très rapide où on la voit nue, qui a été censuré à l'époque. Pareil, elle joue pas le rôle principal, pas du tout. Et c'est plutôt Jacqueline Laurent le rôle féminin principal. Mais aujourd'hui, voilà, on a oublié Jacqueline Laurent et on pense encore à Arletty, à sa gouaille. C'est un peu l'équivalent, c'est ce que dit Philippe dans son portrait, c'est un peu le Titi parisien version féminine. Et c'est resté totalement dans l'histoire du cinéma. Voilà, elle a marqué son époque, sa gouaille. Donc oui, très importante Arletty.
Et puis alors arrive 1936, le Front populaire en France et les lois de progrès social qu'on connaît tous. Pendant que l'Allemagne, elle, nazie, organise les Jeux olympiques, et le cinéma français voit sortir cette année-là, parmi des plus grands films qui puissent exister de son histoire, comme César ou Le Crime de Monsieur Lange.
Oui, Le Crime de Monsieur Lange, oui, de Jean Renoir, qui est un film. En fait, il était fait juste avant le Front populaire et presque il le précède. Il y a souvent, on dit, c'est classique de dire qu'il y a deux films qui parlent du Front populaire, c'est La Belle Équipe, avec des copains qui sont chômeurs et qui gagnent un billet de loterie et qui ensemble font une guinguette. Bon, ça finit mal à cause d'une garce, c'est Viviane Romance, qui joue tout le temps des garces dans les années 30. Et sinon, il y a Le Crime de Monsieur Lange, où là, c'est effectivement c'est dans une petite imprimerie, quelqu'un qui batala, c'est Richard Berry. Non, Jules Berry, rien à voir, qui en fait est un odieux patron. Et il y a Lange qui justement, c'est lui qui va tuer Batala. Ouais. C'est le crime de Monsieur Lange sur Batala, qui lui va faire un imprimé, une BD avec un héros de western. Et c'est amusant dans le film, c'est qu'effectivement, à un moment, Batala, qui est le patron, quitte, il fait des malversations, il laisse l'usine aux travailleurs. Ouais. Et eux, c'est un film libertaire d'une certaine manière, en tout cas, eux récupèrent l'usine, la font fructifier, deviennent en fait... on trouve le succès avec une BD qu'il crée, un imprimé sur un héros de western. Et voilà, ça montre c'est un film extrêmement fraternel, hein, où les ouvriers sont justement n'ont besoin de personne, et c'est un film vraiment sur l'autosuffisance des ouvriers qui c'est un peu une utopie, et ça a été fait juste avant le Front populaire. Ouais. Et voilà, et après à un moment Batala revient, il dit ah ben vous avez gagné de l'argent grâce à mon usine, je veux récupérer l'argent. Bon, ça se passe très mal, hein, et ça nous on a droit dans ce film à un formidable travelling où on suit le crime donc perpétré par Monsieur Lange sur Batala, et voilà, il y a un 360 degrés, la caméra tourne, enfin c'est une prouesse technique énorme, et c'est peut-être le plan qui le plus brillant des années 30, et c'est dû à Jean Renoir.
Et puis alors, plus on s'approche de la guerre, plus le cinéma français sort de chef-d'œuvre, je dirais. Il pulvérise des records de fréquentation en salle de cinéma, notamment en 1938, puisque sort Le Quai des Brumes, où l'on découvre les plus beaux yeux du cinéma français avec Michel Morgan. Hôtel
18,
du Nord.
18 ans seulement à l'époque.
Et ouais. La Femme du Boulanger, Le Schpoutz, La Bête Humaine, Les Disparus de Saint-Agile.
Oui, oui, tout à fait. Très, très grand film de Christian Jacques. Hein. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est vrai que dans ces années-là, il y a Munich.
La force de la créativité par rapport à l'époque ultra sombre, quoi.
Oui. Après, il y a aussi, c'est une époque, on en parle moins, mais il y a des films très patriotes. Il y a un film qui s'appelle Crime sur la ligne Maginot qui montre que la France est prête à accueillir l'envahisseur allemand. Il y a des films qui mettent en avant l'importance de la patrie. L'importance des colonies aussi, ouais. La France est forte, et il y a ces grands films. Voilà. Après, on arrive aussi à une espèce de quintessence, d'âge d'or quelque part, avec à la fois les décors de Trauner, par exemple, Christian Matra, qui est un formidable directeur de la photographie. Tout le monde arrive à son degré d'excellence, à son niveau d'excellence, pardon, et on aboutit à ces films-là. Il y a La Fin du jour aussi de Julien Duvivier, formidable. Enfin, voilà, Le jour se lève. Voilà, on arrive vraiment à. Et effectivement, les personnes aussi, les gens vont beaucoup au cinéma, énormément. Après, c'est une société où il y a beaucoup moins de loisirs.
Bah oui.
Donc le cinéma, c'est vraiment le
cinéma s'impose, en fait.
S'impose, voilà, exactement. Après, malheureusement, voilà, on va tomber dans les 40, la guerre. Mais après, rapidement aussi, sous l'occupation, voilà, comme je l'ai dit, il va y avoir des grands films. Et les gens vont beaucoup aller au cinéma également pour se changer les idées dans un cinéma où on verra aucun Allemand. Où il y aura beaucoup de films fantastiques, par exemple, où on parlera d'ailleurs, de choses, ça sera...
Et parce que 1939 aussi, je crois que c'est la Mostra de Venise, où on... C'est peut-être avant, je ne sais plus, où on accueille le film Frankenstein de James Whale.
Oui, alors que le film était sorti bien avant, mais il y a une coupe Mussolini, je crois, qui est décernée dans ces années-là.
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
Et en 39, normalement, il devait y avoir le premier festival de Cannes.
Oui, qui en 39, c'est ça, j'y arrive. 39, donc la guerre se déclare, et qu'est-ce qu'on crée en France? Le festival de Cannes.
Voilà, on ne pouvait pas le savoir, mais il y avait quelques films qui devaient participer.
Et c'est Louis Lumière qui devait en plus être président.
Oui, tout à fait, oui.
Et en fait, bon, le festival n'a pas lieu, parce qu'on imagine en plus, c'est comme en 68, où le festival de Cannes aussi voulait avoir
lieu. Oui, s'est arrêté, ouais.
Ou là, encore cette année, en 2020, avec la Covid-19, où, Thierry Frémaux, finalement, on a dit non, il n'est pas annulé. Et mais finalement, ils y croient quand même jusqu'au bout. Ils sont prêts même à affréter un paquebot en mettant toutes les stars de l'époque dessus, au large de Cannes, et puis... Mais bon, finalement, ça n'a pas lieu.
Oui. C'est amusant d'ailleurs de voir les films français présentés là-bas sortiront en 40.
Ouais.
Et c'est rigolo. Il y a par exemple L'Homme du Niger, qui est vraiment un film colonialiste.
Ouais.
J'en parle dans les années 40, donc c'est pareil, c'est un teaser où vraiment on montre à quel point la France est formidable avec ses colonies. Elle amène le savoir, le progrès, la médecine. Et c'est un film qui était présenté à Cannes, justement, politiquement, pour montrer aussi la France. Comment elle traitait ses colonies. Il y avait aussi La Charrette fantôme, un film de Duvivier, qui est un remake d'un film de Victor Sjöström, un film fantastique, hein, avec Pierre Fresnay notamment, et Louis Jouvet. Voilà. Mais ça, c'est des films qui sortiront un peu plus tard, qui n'auront pas eu la chance d'être présentés à Cannes. Le festival reviendra en 46, hein, voilà, 45-46, voilà, juste après la guerre.
Oui, bah, comme quasiment tout le cinéma français... dont on a parlé là depuis une heure dans cette émission. Merci beaucoup, Denis.
Ben merci de m'avoir reçu.
C'était passionnant, comme l'est ce livre coécrit avec Philippe Palin, à qui nous pensons, à qui nous dédions cette émission.
Oui, tout à fait. Voilà. Et je lui rends hommage une nouvelle fois, évidemment.
Une histoire du cinéma français, le premier tome donc vient de sortir, 1930-1939. Procurez-le-vous, offrez-le, c'est vraiment passionnant pour qui aime... Tout le monde aime le cinéma, donc voilà, tout le monde devrait lire ce livre.
J'espère tout le monde qui écoute cette émission. Moi.
Merci Denis. Dans un instant ailleurs sur Jet FM, on va se quitter avec une musique comme de bien entendu cette émission était joyeuse malgré l'époque que nous avons évoquée, parce que les films nous mettent de bonne humeur, nous mettent du baume au cœur. On va se quitter avec comme de bien entendu interprété par Arletty. Et encore un petit mot pour vous dire que cette semaine démarre à Nantes la Snif, le festival de l'absurde séance. Pareil, précipitez-vous, prenez vos places. Il n'y en aura pas pour tout le monde puisque, compte tenu de la crise sanitaire, les jauges des salles sont réduites de moitié. Comme de bien entendu, c'est parti. Merci Denis.
Merci beaucoup.
Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Il était au chômage, comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un joli petit revenu, comme de bien entendu.
Voulant faire une folie, comme de bien entendu. Il offrit à sa mille, comme de bien entendu. Un billet de la loterie, comme de bien entendu. Ça ne lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu.
Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour pas être une poire, comme de bien entendu. Elle se régala en le faisant cocu, comme de bien entendu.
Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu. Mais elle gagnait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de rater sa fraise, comme de bien entendu. Il se contenta des coups de la pied au cul, comme de bien entendu.
Et depuis on raconte, comme c'est bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU, comme de bien entendu.
Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu.